Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft, l'association qui s'est donnée pour mission d'héberger des services web libres et de sensibiliser à la culture libre et aux enjeux du numérique. Et, il y a 3 semaines à peu près, nous vous avions parlé du libre cours Libre Culture, une formation en ligne sur le droit d'auteur et sur la culture libre. Et puis, après avoir bien discuté avec Stéphane, Romain, Audric, Jean-Charles sur l'expérience du Libre Culture, on vous avait laissé avec un suspense insoutenable sur la plateforme Libre Cours en elle-même. Alors, aujourd'hui, on va parler de libre cours, justement, et pour ça, je suis avec Stéphane en studio. Salut Stéphane.
Bonjour Audrey.
Et aujourd'hui, on a en plus la chance, le plaisir, l'honneur de pouvoir parler de libre cours avec son co-créateur et développeur principal, Thibaut Haribe. Bonjour Thibaut.
Bonjour Audrey.
Alors Thibaut, tu es ingénieur et docteur R&D chez Kélis, donc c'est la SCOP, la société qui développe et qui maintient notamment la plateforme Libre Cours. Et donc tu es co-créateur de Libre Cours. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai la chance d'être doublement bien entouré pour parler de ce sujet, puisque Stéphane est également co-créateur de Libre Cours. Alors Stéphane et Thibaut, vous avez tous les deux initié la création de cette plateforme en 2017. Est-ce que Thibaut, comme tu es notre invité tout de même, tu veux bien nous raconter les débuts des lancements de Libre Cours et puis nous parler peut-être du besoin, de l'envie à l'origine de ce projet ?
Oui, tout à fait. Alors du besoin, de l'envie, c'est une bonne question. De l'envie, on s'est retrouvé avec Stéphane à un moment en se disant, bon, on a déjà fait quelques petites choses ensemble, notamment mon doctorat qui était encadré par Stéphane Crozat. On commençait à s'éloigner un petit peu malgré le fait qu'on travaillait à peu près sur les mêmes thématiques de temps en temps. Puis à un moment, on s'est retrouvé, on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres sujets que l'on pourrait fouiller ensemble? Et en discutant un petit peu, voilà, on s'est dit qu'on pouvait reproduire un petit peu des mécaniques qu'on avait déjà étudiées autour du logiciel Scénari, qui est le logiciel développé par la société Kélis, mais d'essayer de les pousser un petit peu ailleurs que dans le monde du document, pour les pousser dans le monde de la conception de plateformes, d'essayer d'aller réfléchir à des plateformes qui sont vraiment voilà, adaptées à un besoin d'usage, modélisées, réfléchies pour un contexte unique, et puis qui sont écrites avec des chaînes éditoriales. Et donc, voilà, c'est parti presque autour d'une bière, comme tout bon projet, on va dire. Et puis, à partir de ça, on a commencé une première version en développement, et puis en test, etc. On a fait des itérations là-dessus, jusqu'à arriver à la plateforme actuelle.
D'accord. Donc tu parles en effet, alors Libre Cours, on peut la définir comme une plateforme de formation, et tu as aussi évoqué le terme de chaîne éditoriale. Donc Libre Cours, c'est, on peut dire, une chaîne éditoriale pédagogique. Est-ce que tu pourrais préciser ce que cela veut dire pour nos auditeurs et nos auditrices, même si ici on est à peu près au courant de ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux faire petit acte de pédagogie justement sur ces termes?
Ouais. Bien sûr. Alors, une chaîne éditoriale, c'est un logiciel qui permet d'écrire des documents numériques, de procéder à l'écriture numérique pour produire des documents multimédia. Donc, du coup, on va utiliser tout un tas de stratégies liées au numérique, de la copie, de l'appel de fragments, de la transformation, donc des termes que les développeurs connaissent bien, on va dire. Et on va utiliser des technologies du développement pour essayer de les amener dans le monde de la production de documents. Dans l'objectif un petit peu de rationaliser la production de documents. Ça, c'est à l'origine les chaînes éditoriales numériques classiques, on va dire. Et puis, dans Libre Cours, ce qu'on essaye de faire, c'est d'exploiter ce procédé-là pour concevoir des scénarios en ligne, pour concevoir des ressources et agréger tout ça dans une même plateforme. L'enjeu, c'était de dépasser un petit peu ce qu'on était capable de faire avec des LMS sur des parties très particulières de la LMS. Le but du jeu n'est pas de remplacer un LMS, donc LMS de type Moodle ou ce genre de choses pour des gens qui ont déjà suivi des cours en ligne. L'enjeu de Moodle qui va être de gérer de façon excellente, on va dire, la façon dont s'est organisée une université, les cours, les inscriptions, etc. On a considéré que ce n'était pas le même que notre enjeu à nous, qui était de permettre de concevoir, rédiger des scénarios pédagogiques plus ou moins innovant, plus ou moins dynamique, etc. Et donc, du coup, on a voulu travailler un petit peu sur cet aspect-là avec des logiques issues des chaînes éditoriales numériques.
Peut-être préciser, tu as utilisé le terme LMS, c'est un acronyme pour un mot anglais qui veut dire Learning Management System. On peut traduire ça par plateforme de formation ou système de formation en ligne. Je redonne la main à Audrey.
Oui, merci, merci Stéphane. Et donc par exemple, c'est vrai que si on parle des plateformes de formation en ligne, peut-être qu'on peut penser en premier à certains MOOC que l'on connaît, ou alors à Moodle, comme tu l'as évoqué, qui est une plateforme très générique. Donc tu disais, LibreCours se distingue vraiment de ce modèle-là. Donc si j'ai bien compris, LibreCours, c'est d'abord une plateforme documentaire, comme tu en parlais avec Scénari, mais par-dessus, il y a donc une couche interactive, donc avec, tu parlais d'une logique de session, de séquence, enfin de parcours plutôt, de formation. Est-ce que tu peux préciser en quoi consistent ces interactions justement sur LibreCours et en quoi consiste cette logique de parcours de formation ?
Alors, le concepteur d'une formation va avoir une interface d'édition qui va lui permettre de concevoir un parcours. Alors là, bon, on s'inscrit dans le domaine des chaînes éditoriales numériques pour la production de ce parcours. Donc, c'est un sujet à part entière. Mais donc, il va avoir, il faut imaginer, voilà, des choses un peu classiques, un formulaire dans lequel il va proposer des séquences, il va référencer des modules de formation qui sont sur la plateforme LibreCours. Et il va diffuser ce contenu. Ce contenu va donc créer un nouveau parcours de formation sur la plateforme LibreCours. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les apprenants vont pouvoir s'inscrire, voilà, ou non, là, on est sur des logiques très, très bénignes de paramétrage, s'inscrire sur le parcours. Et puis, on va pouvoir, des choses assez classiques derrière, stocker des réponses des apprenants. On va pouvoir avoir des livrables, donc des contenus qui vont être produits par les apprenants, qui vont être mis en ligne, des notes qui sont données par l'enseignant. À la limite, c'est pas ça qui est le plus intéressant, qui est le plus important, je pense. Ce qui est intéressant, c'est l'amont, c'est la conception de ce parcours. C'est le fait qu'on écrit un parcours. C'est un peu comme si on écrivait les scénarios et les logiques de scénarios d'un MOOC qui serait fait, par exemple, sur la plateforme Fun du gouvernement ou d'une formation dans Moodle. Au lieu d'être dans une logique un petit peu générique avec, voilà, il existe un formulaire générique et puis je peux activer ou non telle option et puis c'est tout. Eh bien là, on s'inscrit dans le monde des chaînes éditoriales avec un modèle qui me permet certaines choses et j'écris mes scénarios avec cette logique-là. Et c'est ça ce qui change principalement, ce qui a pour objectif d'avoir des modèles de scénarios qui vont être beaucoup plus proches du métier donné de la personne qui veut utiliser, donc ici dans LibreCours, de ce que Stéphane Crozat voulait faire dans cette formation. Donc on a conçu un scénario qui était vraiment le plus proche possible de ce que Stéphane Crozat exploite dans ses formations à lui.
Oui, d'accord. Donc en effet, c'est-à-dire que ce qui est super intéressant dans ce que tu expliques, c'est que avec ce modèle, donc avec le modèle de scénarii, avec le modèle de LibreCours, donc l'idée est bien de personnaliser la plateforme en fonction des besoins des auteurs. Hein. Est-ce que c'est le bon terme pour dire que l'on écrit son parcours de formation, qu'on écrit sur scénarii, je ne sais pas, mais l'idée, c'est bien de personnaliser justement le modèle. Alors, pour l'instant, LibreCours, c'est personnalisé en fonction des modalités pédagogiques de Stéphane, donc c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que il faut bien prendre un contexte au départ. C'est-à-dire que si on n'a pas de contexte précis au départ, on se retrouve à faire, on va dire, un modèle générique, ce que font la plupart des plateformes. Et là, ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était de dire qu'est-ce que ça veut dire d'être capable de produire des plateformes vraiment spécifiques avec un contexte donné. Donc, on a pris le contexte de Stéphane, puisqu'on a conçu cela ensemble. Mais l'enjeu derrière LibreCours, ce n'est pas de dire LibreCours va permettre de répondre à tous les besoins d'un point de vue technique. L'enjeu, c'est de dire on a tout ce qu'il faut d'un point de vue outillage technique dans la conception de plateforme pour concevoir rapidement des plateformes avec des scénarios qui vont être sur un autre besoin parce que demain, dans une autre université, dans un autre contexte, on va vouloir faire d'autres types de scénarios et rédiger un scénario. Ça ne va pas vouloir dire la même chose que ce qu'on fait dans LibreCours, par exemple.
Ok, bon, bah, super. Donc en effet, on pourra imaginer peut-être à la suite d'autres scénarios, d'autres LibreCours. Toi maintenant, sur quoi est-ce que tu travailles vis-à-vis de LibreCours, donc, puisque tu travailles dans Kélis, la société qui gère justement ce projet-là. Sur quelles évolutions de LibreCours est-ce que tu travailles actuellement ?
Alors, les prochaines choses qu'on a en tête, le framework Scénari a connu et est en train de connaître là une nouvelle version majeure. Donc, le framework est utilisé à tous les étages là, au niveau de LibreCours et est en train de connaître une nouvelle version majeure qui devrait avoir une version finale dans les, les semaines, mois à venir. Et donc, une des prochaines étapes, ça va être de mettre à jour l'ensemble de la plateforme LibreCours avec cette nouvelle version majeure. Une nouvelle version majeure qui, en capacité éditoriale, amène des choses pas inintéressantes, on s'affranchit de vieilles technologies qu'on voulait mettre au rebut depuis quelques temps. On passe dans des éditeurs web. Donc, on a quelques éléments un peu modernes, on va dire, par rapport à ce qu'on appelle moderne dans le numérique aujourd'hui. Ça va être le premier élément. Ensuite, on pourrait imaginer de travailler un petit peu sur des scénarios un peu différents, un peu plus complexes, un peu plus innovants. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on échange avec Stéphane sur des prochaines versions. Donc ça, c'est deux axes qui concernent vraiment LibreCours en tant que tel. Après, quelque chose qui s'inscrit, on va dire, exactement dans la même logique, mais qui n'est pas sur cette plateforme-là, l'idée, ce serait de travailler sur d'autres scénarios, dans d'autres contextes, donc d'autres plateformes qui sont, on va dire, comme LibreCours, mais qui ne sont pas faites pour le contexte spécifique de LibreCours, donc pour une université donnée ou peut-être un produit libre tout prêt pour qu'une université puisse l'installer chez elle, ou ce genre de choses. Donc, d'autres produits calqués sur LibreCours.
Pour les CMA, par exemple, Thibault ?
Par exemple, pour les CMA, s'ils en avaient le besoin, je ne sais pas, je n'en ai pas parlé avec eux.
Je précise aussi rapidement, tant que j'ai pris la parole, tu as utilisé le mot framework. Framework, ça peut vouloir dire, ça veut dire en quelque sorte le cadre logiciel sur lequel on bâtit les choses. Donc pour les gens qui ne sont pas informaticiens, on peut dire que c'est les premières bases, les premières briques sur lesquelles on va construire plus spécifiquement les choses ensemble. Donc c'est vrai, quand on change des choses au niveau du framework, c'est un peu comme on change des choses au niveau des bases, des fondations, ça demande pas mal de boulot.
Et je ressaisis le sujet de l'informatique, du développement justement et de ces termes techniques pour te demander, Thibault, si toi, donc, comme ton travail, c'est donc de concevoir, de développer aussi les fonctionnalités de LibreCours, par rapport au libre, qu'est-ce que le libre influence dans ton travail ? Parce que tu travailles dans un milieu qui, on pourrait dire, est baigné dans le libre. Kélis, c'est Inscope, qui est aussi une entreprise du numérique libre, qui ne produit que des logiciels sous licence libre, qui soutient des organisations, des organismes qui font la promotion des logiciels libres. Alors, toi, qu'est-ce que ça influence dans ta manière de travailler ? Et puis, peut-être, pourquoi tu as fait ce choix-là, éventuellement ?
Elle est compliquée, cette question, parce que je connais pas l'inverse. Donc du coup, si je me mettais à travailler pendant 6 mois ou 1 an dans un autre contexte, je pourrais te dire qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur de l'informatique propriétaire. Mais j'ai toujours travaillé sur de l'informatique libre, et ça me semble quelque chose de naturel. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur de l'informatique libre ? Ça veut dire que l'ensemble de notre travail est visible par à peu près n'importe quelle personne qui aurait envie d'aller regarder ce qu'on fait. Alors, je précise, l'ensemble du cœur logiciel, dans ce qu'on fait pour les clients de Kélis, et on ne met pas tout sur le web parce que nos clients ne le souhaitent pas forcément. Donc voilà. Donc, c'est vrai que je vais avoir un peu du mal à répondre un peu plus loin à ta question que ça. Et après, pourquoi je le fais ? En effet, quand j'ai été diplômé et que j'ai voulu chercher du travail, c'est quelque chose qui était important pour moi. Je voulais m'inscrire un petit peu dans une logique du travail autour de l'informatique et open source. Et surtout, c'est quelque chose que je considérais très difficile de faire sur mon temps libre. On a un petit peu, quand j'étais étudiant, j'avais un petit peu cette vision-là. L'informatique open source, c'est que quelque chose qu'on fait sur son temps libre. Puis à côté de ça, on travaille sur des choses sérieuses avec des licences privatives. Et je cherchais du coup, comme je n'y arrivais pas, à dégager le temps, je cherchais quelque chose qui permette de le faire sur mon temps de travail. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir trouvé ça et de voir que ça marche d'un point de vue économique, et donc de voir que c'est un modèle qui est cohérent. Mais voilà.
Je peux peut-être ajouter un tout petit quelque chose. Il y a alors d'abord deux nouvelles idées d'émission, hein, parce qu'on pourra faire une émission en tant que telle sur l'histoire de Scénarii, et pourquoi pas une sur le modèle de Kélis en tant que telle. Je pense que ça peut faire deux sujets d'ouverture. On aime bien en général essayer de trouver les nouveaux sujets pendant l'émission elle-même. Mais cela dit, avec LibreCours, on a, je trouve, un exemple très intéressant, justement, de ce que peut apporter le libre en termes de fluidité de coopération. C'est-à-dire que, alors je vais pas mentir, Kélis, c'est des gens que je connais bien, c'est des copains. Mais néanmoins, on a réussi à mener ce projet avec Thibaut et d'autres ressources de Kélis et également d'autres ressources de l'UTC de façon extrêmement informelle. C'est-à-dire qu'on a pu se lancer sur ce projet, décider de mettre des moyens en commun, décider de construire quelque chose ensemble sans commencer par se préoccuper pendant de longues semaines ou de longs mois, voire de longues années, de la façon dont on allait partager des résultats, de la propriété, etc. On a juste convenu d'une chose, c'est que tout ce qu'on faisait, eh bien, on le mettait justement en commun, on le mettait sous licence libre, indépendamment de si c'est Thibaut qui a fait un peu plus de cela, moi qui ai fait un peu plus de cela. On a décidé que tout ça n'avait pas d'importance et que de toute façon, tout était libre. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce projet, enfin pendant ce projet et de toute façon à la fin, eh bien, aussi bien qu'Élise, que moi-même, que l'UTC, que d'ailleurs n'importe qui d'autre, peut l'utiliser, en tirer les bénéfices. Et même, en fait, si on n'est plus copains, même si on s'entend plus, si demain j'ai plus envie de parler avec Thibaut, eh bien, on peut chacun partir avec l'état de notre travail commun au moment où on s'est arrêté, et puis à partir de là, avancer. Donc, je pense que c'est un bon exemple de fluidité qu'apporte le logiciel libre dans les relations en général entre les acteurs, et là, a fortiori, entre un acteur public et un acteur privé.
Alors, une petite remarque par rapport à ça, pour aller un tout petit peu plus loin. Si on l'a fait, c'est pas juste par idéologie autour de l'informatique libre, c'est aussi parce que, on va dire, nous, le temps et les investissements qu'on a fait autour de LibreCours, ce sont des choses qu'on a pu réutiliser ensuite. C'est des preuves de concept, donc des espèces de tests grandeur nature qu'on a pu réutiliser ensuite, qu'on a pu valoriser auprès de certains de nos clients en disant on sait faire ce genre de choses, on est devenu plus efficace sur certaines choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que malgré le fait que l'ensemble des résultats de ce projet, de ces travaux ont été partagés, on a quand même une plus-value, on a quand même un gain à investir du temps sur ce projet commun. Donc ça définit bien, ça montre bien plusieurs choses. À la fois, on ne s'embête pas au début sur des histoires de contractualisation, et malgré tout, chaque acteur a l'impression, et en tout cas pour nous c'est vraiment le cas d'un point de vue économique, de retirer une plus-value de ce travail commun.
Ouais, merci beaucoup Thibaut pour cette précision. Et, en effet, donc, je crois qu'on va être obligé de te libérer vu l'heure, mais on va poursuivre la discussion justement sur tout ce que permet LibreCours, que ce soit du point de vue d'une entreprise, du logiciel ou de la recherche aussi, puisque LibreCours articule énormément de domaines et de champs différents. Mais Thibaut, merci beaucoup pour ce temps que tu as passé avec nous.
Avec plaisir.
Et à très bientôt.
À bientôt, Thibaut. Bye.
Alors donc, on a compris en effet avec cette première partie avec Thibaut que LibreCours, c'était une plateforme de formation en ligne, libre, que c'était en même temps une expérience d'intégration de la suite logicielle Scénarii. Et Stéphane, tu vas pouvoir nous parler maintenant peut-être de deux autres dimensions de LibreCours tout aussi intéressantes et importantes, qui sont le fait que LibreCours soit aussi un projet de recherche technologique et aussi un projet de contribution à Contributopia de Framasoft, le projet Contributopia dont on a parlé déjà plusieurs fois. Mais avant peut-être de te demander ton point de vue de chercheur et puis de membre de Framasoft, je voudrais poser quelques questions à l'enseignant que tu es et qui a conçu, donc on l'a dit, co-conçu LibreCours avec Thibaut par rapport à tes propres besoins pédagogiques. Alors, en effet, petit rappel, sur LibreCours, il y a déjà beaucoup de tes cours. Il y a des cours de base de données, de chaîne éditoriale, un nouveau cours qui s'appelle « Écrire, communiquer et collaborer sur le web », voilà, des libres cultures, bien sûr. Et donc ce dont j'aimerais que tu nous parles, c'est le fait que tu aies conçu LibreCours pour expérimenter des pratiques pédagogiques spécifiques et que LibreCours donc fonctionne selon un modèle pédagogique particulier. Thibaut nous en a parlé un petit peu, mais pour toi, qu'est-ce qui était intéressant dans le fait d'expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques numériques, enfin avec un outil numérique, et puis quelles sont-elles?
Alors, on peut en donner quelques éléments, effectivement, mais ce ne sont pas des choses révolutionnaires en tant que telles. Effectivement, comme l'a dit Thibaut, ça correspond à un modèle, un cadre, une façon de faire. Et l'idée était d'ancrer en quelque sorte deux trois pistes. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est ce petit détour par les MOOC. Hein, c'est quelque chose dont on a pas mal entendu parler. Se sont beaucoup développés ces dernières années. Ça commence à dater un petit peu là, de plus de 10 ans. Des mises à disposition de formations en ligne qui reposent essentiellement ou massivement, en tout cas pour un grand nombre d'entre elles, sur de la mise à disposition de vidéos et des quiz. Donc ça, c'est une logique de formation qui a tout son intérêt, mais qui est beaucoup basée sur de l'exposition de connaissances et une relative, on va dire, passivité de l'apprentissage, ou en tout cas essentiellement basée sur la prise d'informations, même si à côté de ça, il y a pas mal de logiques d'interaction qui sont mises en place. Et donc, moi, j'ai souhaité transposer en quelque sorte des choses que je faisais à l'UTC, qui sont plus basé sur la notion d'exercice, de mise en pratique. Et donc l'enjeu est moins de structurer de l'information, de la connaissance, a fortiori de la vidéo, j'en mets pas ou très peu, et au contraire d'aller sur des logiques de texte assez courts et assez efficaces, tant que je peux. Et puis, donc sur des logiques d'exercice. Donc, il s'agit plus de scénariser, d'organiser une mise en pratique, en fait, d'un domaine. Alors, c'est pareil, hein, ça dépend aussi des domaines. Ça s'applique bien à ce que je fais en informatique. Et l'idée, c'est de voir comment ça s'applique à d'autres domaines.
D'accord. Et donc, comment est-ce que tu... Je ne sais pas si mon micro est... D'accord, Stéphane. Et donc, comment est-ce que tu fais pour rendre l'apprenant plus actif? Comment est-ce que tu fais ces... comment est-ce que le libre cours permet cette mise en pratique et permet de faire travailler, donc de vérifier ce genre de suivi aussi? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, il y a des contextes différents. Quand on est à l'UTC, c'est facile. Il suffit de donner une date et de dire qu'il y aura une note. Et ça, en général, ça provoque effectivement l'activité. Mais là, l'intérêt, c'est aussi d'expérimenter justement en dehors du cadre, entre guillemets, contraint ou régulé de l'école, du diplôme, etc. Et donc, encore une fois, l'enjeu, c'est de donner des exercices, à mon sens, assez pratiques, assez clairs, assez précis. Donc, sur le libre cours, libre culture, à un moment, ça peut être le fait de demander de produire quelque chose sur un, autour d'un commun, comme par exemple OpenStreetMap, et de venir publier le lien qui est en rapport. Donc l'enjeu, c'est de passer beaucoup moins de temps finalement à expliquer comment faire les choses que de passer du temps à essayer de trouver quoi demander, en faisant en sorte que ce quoi soit justement suffisamment intéressant, bien calibré au niveau de la difficulté par rapport à ce que la personne peut faire, etc., ni trop dur, ni trop facile, etc. Et du coup, là, c'est, on va dire en quelque sorte un autre domaine de la pédagogie qui consiste moins à formaliser du savoir qu'à essayer d'organiser l'activité de quelqu'un qui apprend.
Oui, en effet, ça, cette pratique-là donc, peut s'adapter à différents contextes et par rapport au libre cours, libre culture, justement, ça permettait tout plein d'exercices de contribution, donc très actifs, et puis aussi des exercices en pair à pair, et puis le fait d'avoir des animateurs, des animatrices qui n'aient pas besoin d'être forcément des experts du sujet, mais qui puissent justement organiser l'apprentissage de l'autre côté et puis animer l'apprentissage. Alors, donc, OK pour ce point-là. Alors, libre cours, tu le présentes aussi. Donc là, je te demande de porter ta casquette de chercheur comme un projet de recherche technologique. Alors, en quoi est-ce un projet de recherche technologique? Qu'est-ce qu'il te permet d'expérimenter? Qu'est-ce qu'il te permet de penser? Pourquoi est-ce que ça a trait aussi à de la recherche libre cours?
Alors, on va en reparler en plus, je pense, un petit peu après, si on parle de la question de la plateformisation. Mais disons que l'idée de ce qu'on appelle la recherche technologique à l'UTC, c'est de pas être dans une posture qui consisterait à dire on va d'abord réfléchir en quelque sorte à ce qu'on fait, essayer d'en concevoir une vision un petit peu idéale ou théorique, etc., puis voir quelles applications en faire. C'est pas non plus et encore une fois, ça correspond à différents modèles, donc c'est pas non plus un modèle qui consisterait à étudier le réel de l'extérieur, donc regarder ce que les gens font et à partir de là en déduire des régularités ou que sais-je, mais il s'agit de comprendre en faisant et de faire en comprenant, c'est-à-dire qu'à un moment, on va décider de se lancer dans un sujet. Donc ici, la question de, on va dire au sens très large, mais de quel type de pédagogie on peut mettre en ligne et de comment on peut les rendre accessibles. Alors je vais peut-être revenir sur ce terme, en fait, c'est peut-être ça la clé. Et du coup, plutôt que de se dire, on va réfléchir pendant 3-4 ans à comment on fait, puis ensuite, etc., eh bien, on va se lancer. Donc, à un moment, on commence à partir. Alors, et du coup, chemin faisant, on essaye de théoriser ce qu'on fait tout en le faisant, sachant que ça peut remettre en cause pas mal de trucs. Alors, du coup, peut-être justement le point clé de Libre-Cours, on va dire peut-être ce que l'on cherche au centre, et c'est encore une fois la continuité du projet Scénariste de ce point de vue. C'est pas seulement de mettre des cours en ligne, c'est pas seulement de réfléchir sur la pédagogie, mais c'est d'essayer de voir comment, et on va aussi faire le lien avec Picassoft et la décentralisation, mais de voir comment tout le monde ou plein de personnes, dont c'est le métier ou pas, peuvent être en mesure de mettre à disposition de l'enseignement et des formations en ligne. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais une référence gratuite au CMEA, mais qui écouteront peut-être cette émission et à qui ça donnera peut-être envie. Mais c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du monde éducatif puissent se dire « Ah bah tiens, effectivement, moi, je pourrais mettre en place un certain nombre de choses avec ça ».
Ok. Donc, tu parles donc peut-être d'une forme d'essayer de favoriser l'autonomie justement des enseignants, des organismes de formation vis-à-vis des outils techniques qu'ils utilisent dans leur contexte pédagogique. La question, tu as évoqué le terme de plateformisation de la formation, donc ça a un sens, ça a un lien avec ça. En effet, alors la plateformisation de la formation, on l'avait déjà évoqué ce terme-là dans une précédente émission Libre Cours sur justement le libre dans l'enseignement et la recherche. Et on t'avait piqué ta définition, Stéphane, pendant l'émission sur la plateformisation de la formation pour l'expliquer. Si tu vas me reprendre si je me trompe, mais on pourrait la définir comme... Une l'appropriation par des acteurs du web, donc des acteurs du numérique, de services précédemment existants entre fournisseurs et consommateurs. Donc dans le contexte de la pédagogie, ça veut dire qu'il y a un outil technique, une plateforme qui va se placer en intermédiaire entre les apprenants et les enseignants. Et donc, en quoi est-ce que cette plateformisation de la formation, là, il est important d'y réfléchir maintenant? Pourquoi est-ce qu'il est important d'essayer de favoriser donc l'autonomie des enseignants par rapport à ce phénomène de plateformisation de la formation?
Ça devient assez facile en fait de répondre à cette question aujourd'hui puisque on a assisté, on a tous maintenant l'expérience plus ou moins directe de plein de secteurs qui ont été plateformisés, on a dit à un moment ubérisés, donc à commencer par justement Uber, Airbnb, etc. Amazon en quelque sorte forme une sorte de plateformisation de presque tout. Et donc l'enjeu, si tu veux, la réflexion, c'est de se dire à un moment, l'enseignement en France est pas trop touché par ça, n'est pas encore très touché par ça. Et donc, du coup, on a deux façons de réagir à ça. Soit on se dit, c'est cool, on est protégé, donc du coup, ça sert à rien de s'en occuper. Ou alors, on peut se dire, peut-être qu'il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui font qu'on a une protection assez forte de ce secteur, beaucoup plus forte que les autres secteurs que j'ai mentionnés avant. Et donc, c'est peut-être qu'une question de temps, en quelque sorte. Alors, encore une fois qu'on a dit que c'était qu'une question de temps, on peut décider que de toute façon, ça arrivera et que ça sert à rien de s'embêter. Ou alors, on peut considérer que ça a du sens d'essayer de réfléchir, de trouver des différents scénarios pour au moment où arrivera le Amazon de la formation. Mais il y a déjà un Google School qui existe, donc au moment où il y aura où Google School, on va dire, sera en capacité de délivrer des diplômes équivalents à ceux de l'UTC pour prendre cet exemple, ou des baccalauréats ou que sais-je, et bien comment est-ce que nous, on aura été en capacité de s'organiser, de répondre à ça et de continuer d'exercer notre métier, ou alors en tant que chercheur, d'avoir démontré que de toute façon c'était aussi bien, donc on pourra rentrer chez nous serein à ce moment-là.
Et oui, sauf que nous, comme on cherche à occuper le terrain, c'est pas vraiment... c'est le lien que tu fais peut-être avec Picassoft, le fait de dire qu'on cherche à justement proposer des modèles alternatifs, proposer, alors là, en l'occurrence, Libre-Cours, ce serait d'essayer de décentraliser ce phénomène de plateformisation de la formation, justement, et puis d'essayer de proposer un modèle alternatif où chaque enseignant, organisme de formation pourrait garder le contrôle sur l'outil justement technique qui médie la relation pédagogique.
Hein. Ouais, exactement, parce que en fait, alors encore une fois, ça pourrait nous emmener un petit peu loin, mais ce qu'il faut voir, c'est que la pédagogie à distance, alors a fortiori si on se place avant le confinement, hein, parce que là il y a eu quand même un bouleversement des données, et je pense que ça va continuer de se complexifier, mais en tout cas avant le confinement, pour faire simple, la logique de l'enseignement l'enseignement à distance appartiennent à des acteurs très très spécialisés, comme le CNED par exemple. La logique de l'enseignement numérique, pareil, a été quand même essentiellement appropriée par une poignée d'acteurs. Dans le domaine de l'informatique, on peut citer par exemple Open Classroom, un certain nombre d'organismes de formation privée. Et globalement, les acteurs publics sont un petit peu en difficulté pour s'emparer de ces aspects. Alors, ne le souhaitent pas, ne le peuvent pas, etc. Ça, encore une fois, ce sera un sujet à part entière. Mais en tout cas, il n'y a pas une diffusion au niveau individuel, au niveau de collectifs plus petits, au niveau associatif, etc., comme tu l'as dit, de ces aspects-là. Donc effectivement, l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut organiser et préparer des technos qui vont permettre une logique de formation en ligne, à distance, donc avec des outils numériques, mais décentralisée et appropriable par des petits acteurs.
Ok, donc en effet, il y a cette question de l'autonomie, de l'appropriation par chaque acteur de ces outils, et puis aussi une question de diversité pédagogique, au sens où justement, comme aussi l'expliquait Thibault, l'intérêt c'est de pouvoir permettre que ces outils s'adaptent à une diversité de besoins et de façons de faire, en fait. Donc s'adaptent plutôt aux besoins des enseignants plutôt que l'inverse, que de forcer les enseignants à s'adapter à ce qu'il est possible de faire ou non sur une plateforme.
Et peut-être encore là-dessus, je remets un petit élément rapide, mais donc ça a toujours été en fait la génétique du projet Scénarii au départ, c'était de voir comment, face à des outils qui imposent, en fait qui standardisent des façons de faire dans un petit peu tous les domaines, comment est-ce qu'on pouvait essayer d'imaginer des outils suffisamment souples pour qu'on puisse nous les retordre un petit peu de la façon dont on a envie. Donc tu as tout à fait raison, hein, c'est vraiment un enjeu très important. C'est pour ça que tout à l'heure Thibault a précisé plusieurs fois le modèle de Stéphane, etc. Il s'agit à aucun moment d'imaginer que Librecours soit un modèle qui va coloniser le monde entier, mais que par contre, ce qu'on est en train de mettre en place en termes de flexibilité au niveau de Librecours puisse être reflexibilisé, retordu différemment dans d'autres contextes. Donc c'est vraiment l'enjeu de ce point de vue-là.
Je vous propose qu'on puisse méditer un petit instant sur cette belle réflexion, cette belle perspective, avec un petit morceau de musique. On va écouter aujourd'hui Bad Attraction de Unreal DM, et c'est en licence CC by NC. À tout de suite. Et de retour dans la voie libre, nous parlons de Librecours aujourd'hui. Alors, Librecours, on l'a défini déjà comme une plateforme de formation en ligne, comme aussi un projet d'expérimentation pédagogique avec la suite logicielle Scénarii. On a parlé ensuite tout dernièrement du projet de recherche technologique qu'est Librecours. Et il nous reste une dernière dimension à aborder pour vous présenter Librecours en entier. C'est le fait que Librecours soit également une contribution au projet Contributopia de Framasoft. On en a parlé un petit peu déjà dans d'autres émissions du projet Contributopia. Alors on peut dire que comme le MOOC chaton, Librecours, ça s'inscrit vraiment dans Contributopia, et plus précisément dans une action, une branche de Contributopia qui est celle de créer une université populaire du livre. L'action s'appelle même Upload, c'est un acronyme pour Université populaire du livre ouverte, autonome et décentralisée. Et donc c'est vrai que Librecours s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Librecours a été fondée sur les principes de Upload, on pourrait dire. Est-ce que toi, Stéphane, quand tu as lancé Librecours, tu pensais à... Non, tu pensais peut-être pas à Contributopia, c'était pas... un anachronisme, là ?
Non, c'est... effectivement, je saurais plus remettre exactement les choses dans l'ordre, mais en tout cas, c'est effectivement... Ça se passe au même moment, hein, au moment où Contributopia sort. Moi, effectivement, la ligne Upload me saute immédiatement au visage, puisque cette idée de rendre accessible la formation à l'extérieur, c'est quelque chose que, on va dire, j'avais toujours eu, mais surtout du point de vue de mes contenus, de mes cours, etc. Ensuite, on l'a vu également du point de vue de Scénarii, mais en tant qu'outil pour créer du contenu. Et à un moment, l'idée de réfléchir à comment faire en sorte que tout le monde, ou en tout cas plein de personnes, puissent devenir acteurs et actrices de formation. En fait, quelque part, tel que moi je le fais à mon échelle et dans mon contexte, m'a paru une évidence à ce moment-là. Tout ça pour dire que du coup, par rapport à ton... Enfin, peu importe ce qui est arrivé avant, mais j'y avais pas forcément pensé avant Upload à l'idée de dire, ok, j'avais déjà pensé à comment moi est-ce que je pouvais apporter des formations, mais pas forcément comment est-ce qu'on pouvait organiser ensemble à plusieurs ce genre de choses.
Ok. En effet, après, donc Librecours, eh bien, ça vient vraiment. On fait le lien avec Picassoft, on fait le lien avec Framasoft, donc des associations d'éducation populaire, hein, en premier, aux enjeux du numérique, donc ils sont forcément intéressés dans ce genre de projet et de démarche. On a fait déjà un teasing pour deux émissions, hein, on a dit, hein, Scénarii, Kélis, et puis je pense qu'on pourrait peut-être en lancer une troisième, parce que apparemment il y a un projet de recherche à l'UTC qui commence aujourd'hui, puis qui a pour objectif peut-être de contribuer à concevoir une version décentralisée et fédérée du Librecours. Donc là, ce serait peut-être un Librecours en mode fait divers, mais bon, c'est encore un autre teasing pour une prochaine émission.
Tu m'as volé, Audrey, mon effet, puisque je pensais effectivement essayer de te mettre mal à l'aise à l'antenne en te demandant de nous en parler un tout petit peu. Alors donc, tu commences aujourd'hui un travail de recherche à l'UTC sur ce sujet. Tu en rajoutes un petit mot ou pas ? Tu m'as grillé mon effet, mais j'essaie quand même d'en rajouter un aspect.
Non, parce que je promets une autre émission.
Ok, d'accord, bien, tu t'en es sorti, ça marche comme ça.
J'esquive. Pour me faire pardonner, je vais essayer quand même de donner quelques liens à aller voir. Donc en premier, bien sûr, librecours.net, aussi scénarii.kélis.fr pour aller voir en quoi consiste Kélis. Et puis, bien sûr, le blog aswemay.fr, là où Stéphane capitalise ses recherches, où vous retrouverez tout plein de ressources sur Librecours, entre autres. Et puis, bien sûr, contributopia.org. Voilà. Stéphane, merci pour aujourd'hui. Et puis donc, je te donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et à bientôt. Bonne journée à vous.
Au revoir.